Pascal Liu, donc bonjour et merci d'être avec nous sur ONU Info, d'avoir accepté cette interview. Donc vous êtes économiste principal à la division des marchés du commerce à la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc nous allons parler bien sûr de la guerre en Ukraine. Et bien sûr, nous avons vu toutes les images qui sont assez perturbantes et nous ne savons pas sa durée de cette crise ou de cette guerre. On voit déjà une certaine flambée des prix qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur des millions de personnes. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle justement jouent l'Ukraine et la Russie sur les marchés internationaux de matières premières?
Oui, bien sûr, et merci pour votre invitation. Donc, tout d'abord, une pensée pour toutes les victimes de cette guerre et un espoir, espérons que la paix puisse prévaloir très bientôt. Alors, la Russie et l'Ukraine occupent des places importantes dans l'offre mondiale des produits alimentaires, et effectivement, parce qu'ensemble, elles réalisent plus d'un tiers des exportations mondiales de céréales. Donc, vraiment, une part très, très importante des exportations mondiales de céréales. Notamment, la Russie est le plus grand exportateur mondial de blé et l'Ukraine est le cinquième exportateur mondial de blé. L'Ukraine est aussi le second exportateur mondial d'orge, alors que la Russie est le troisième. Donc, vous voyez, un peu, ça donne un peu une idée de l'importance de ces pays pour le blé et l'orge. Mais il y a aussi le maïs. L'Ukraine est le troisième exportateur mondial et la Russie le sixième. Donc, ensemble, ces deux pays assurent plus de 19% de l'offre mondiale d'orge, plus de 14% de l'offre mondiale de blé. Et plus de 4% de l'offre mondiale de maïs. Donc, ça dit bien l'importance de ces deux pays. Mais au-delà des céréales, il y a aussi les huiles végétales qui sont très importantes et les graines oléagineuses, puisque ensemble, Ukraine et Russie représentent plus de la moitié des exportations mondiales d'huile de tournesol et ce sont aussi de grands fournisseurs de colza.
Et donc, les prix des produits de base ont grimpé en flèche. On a vu depuis le début de cette guerre, tels que le blé, le maïs et l'huile. Donc, quels sont justement les chiffres? Est-ce qu'on a des chiffres de ces augmentations de prix?
Oui, alors effectivement, les prix de ces denrées alimentaires, qui étaient déjà en hausse depuis la moitié le second semestre de l'année dernière, en fait de 2020, donc déjà depuis plus d'un an et demi, ont atteint un niveau record. Par exemple, la FAO compile un indice des prix des produits alimentaires, un indice composite, donc avec un panier de produits alimentaires et leurs prix. Et cet indice a affiché une valeur moyenne de plus de 140 points en février, donc le mois dernier, soit presque 4% de plus qu'en janvier et surtout 21% de plus que son niveau d'il y a un an. Donc on a atteint ainsi un nouveau niveau record qui dépasse même de 3 points le précédent record qui avait été enregistré en février 2011, à l'époque où il y avait eu la crise des prix alimentaires, donc plus de 10 ans. Donc ça, c'est une moyenne mensuelle évidemment sur février parce que l'indice a été publié assez récemment, il a été calculé sur tout le mois de février. Mais depuis le 24 février et le début des hostilités, les prix de certaines denrées, en particulier les céréales et les huiles végétales, ont augmenté encore plus fortement. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Les prix du blé sur le marché à terme de Chicago ont dépassé leur niveau record qu'ils avaient atteint en 2008 et ils ont même franchi brièvement le seuil de 500 dollars par tonne la semaine dernière. Ils ont un petit peu baissé depuis, mais ils restent quand même à un niveau très élevé, à peu près 400 dollars par tonne. En ce qui concerne les prix du maïs, toujours sur le marché à terme, ils ont augmenté de 44% par rapport à leur niveau d'il y a un an. Et actuellement, sur les marchés à terme, ils sont proches de 300 dollars par tonne ces derniers jours. Aussi, un prix très élevé. On a parlé aussi des huiles végétales. Les prix de l'huile de tournesol sont très proches de leur record historique. Alors, évidemment, on n'a plus de prix à cause du conflit pour ce qui est de l'Ukraine. Mais si on prend par exemple les prix FOB, donc les prix à l'exportation de l'Argentine, qui est le troisième exportateur mondial, ils sont passés de 1 500 dollars par tonne le 24 février dernier à 2 450 dollars le 10 mars, soit une augmentation de 63% en très peu de temps. Donc vraiment, ça donne une idée de la flambée des prix de certaines denrées agricoles, en particulier celles qui sont exportées de l'Ukraine et de la Russie.
Justement, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces prix des denrées et alimentaires étaient déjà élevés, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Alors, en effet, ils étaient élevés parce qu'il y avait plusieurs facteurs, en fait. Il y avait des facteurs aussi bien du côté de la demande que du côté de l'offre. Alors, si on commence par le peut-être le plus simple, la demande, eh bien évidemment, il y a eu une très très forte, disons un fort tassement économique pendant la pandémie, au début de la pandémie, à partir de février-mars, disons début 2020 jusqu'à fin 2020, début 2021, ce qui a été suivi d'une reprise économique lorsque les taux de vaccination ont commencé à être beaucoup plus élevés dans beaucoup de pays, lorsque certains pays ont commencé à sortir de la pandémie, même si évidemment elle n'est pas finie. Il y a quand même une certaine reprise économique qui a été observée en 2021. Et donc, cette demande a été forte et elle a été un peu contre-cyclique par rapport à l'offre, à la capacité productive qui avait beaucoup baissé pendant la pandémie. Donc, un décalage en quelque sorte entre l'offre qui restait encore faible et la demande qui brusquement a rebondi et est devenue très forte. Ça a créé donc une tension sur les prix. Alors, justement, l'offre, on en avait parlé. L'offre a aussi subi des chocs, par exemple la hausse des coûts de l'énergie, des coûts des intrants et du transport, puisque les coûts du fret ont beaucoup augmenté, le fret maritime notamment, qui est le principal moyen de transportation pour les exportations mondiales de céréales, et aussi des baisses de production qui sont liées à des facteurs climatiques dans certains grands pays producteurs, qui ont entraîné donc une réduction de l'offre. Donc c'est ce décalage entre une demande en forte reprise et une offre qui n'a pas pu suivre cette demande, qui a créé donc une forte hausse des cours des denrées alimentaires. Par exemple, les prix du blé et de l'orge ont augmenté de 31% dans l'ensemble du monde au cours de l'année dernière, donc bien avant le conflit actuel. Les prix de l'huile de colza et de l'huile de tournesol ont cru de plus de 60%. Donc là aussi, des fortes tensions déjà avant cette guerre.
Et beaucoup de pays dépendent justement de la Russie et de l'Ukraine pour leur approvisionnement, surtout en blé. Donc, quels sont les pays qui sont les plus touchés ou qui vont être touchés et quelles sont justement les conséquences maintenant et si la guerre perdure?
Alors, effectivement, les pays qui importent beaucoup de céréales de l'Ukraine et de la Russie vont être fortement touchés, notamment l'Égypte, la Turquie, le Bangladesh et l'Iran sont les plus grands importateurs de blé au niveau mondial et ils achètent plus de 60% de leur blé à l'Ukraine et à la Russie. Ils importent donc des quantités très importantes en valeur absolue. Mais également des pays plus petits, des économies plus petites comme le Liban, la Tunisie, le Yémen, la Libye et le Pakistan sont eux aussi fortement dépendants de l'Ukraine et de la Russie pour leur approvisionnement en blé. Donc tous ces pays vont certainement être touchés, commencent déjà à sentir les effets, et les effets vont s'amplifier parce que jusqu'à présent, c'est surtout au niveau des cours internationaux qu'on a vu donc les impacts, les effets. Mais évidemment, tout ça, il y a un certain retard, mais ça se transmet, c'est en train de se transmettre aussi au niveau des marchés nationaux et des prix nationaux.
On a vu aussi la hausse des prix de l'énergie un peu partout dans le monde et ça a provoqué aussi une augmentation des prix de certains produits tels que certains engrais. Donc, quelles sont justement ces conséquences?
Alors effectivement, la forte demande et la volatilité des prix du gaz naturel en particulier ont fait grimper les coûts des engrais avant la guerre. Par exemple, le prix de l'urée, qui est un important engrais azoté, a plus que triplé au cours des 12 derniers mois. Et donc c'est un peu, en quelque sorte, c'est la forte hausse des prix de l'énergie depuis 2021 qui est responsable en partie de cette augmentation qu'on a vue l'année dernière. Et cette hausse des prix d'énergie provient d'une forte demande qui est couplée à un manque d'investissement dans les énergies renouvelables. Il y a eu une baisse des investissements dans les énergies fossiles due à la nécessité impérieuse d'atténuer le changement climatique, donc de limiter l'utilisation de combustibles d'énergie fossile. Mais malheureusement, cette baisse des investissements dans les énergies fossiles n'a pas été compensée par des investissements suffisants dans les énergies renouvelables. Et donc, on se trouve avec un problème parce que beaucoup de produits qui sont hautement consommateurs d'énergie, comme justement les engrais, doivent payer des prix élevés et donc leurs prix eux-mêmes augmentent. Alors la guerre actuelle accentue la hausse du prix de l'énergie, car la Russie est un acteur de premier plan du marché mondial de l'énergie. Elle réalise 18% des exportations mondiales de charbon, 11% du pétrole et 10% du gaz. En plus, l'offre mondiale d'engrais est extrêmement concentrée. La Russie est le premier producteur mondial d'engrais. C'est aussi le premier fournisseur mondial d'engrais azotés et d'engrais potassiques et le second fournisseur pour les engrais phosphatés. Ces trois types d'engrais qui sont absolument indispensables à l'agriculture. Alors, la guerre actuelle donc accentue la hausse du prix des engrais chimiques, ce qui entraîne des risques de surcoûts importants pour les agriculteurs, en particulier les petits et moyens agriculteurs qui n'ont pas une trésorerie suffisante pour pouvoir faire absorber ce choc au niveau des prix. Et donc, il est probable que beaucoup d'agriculteurs vont réduire leur utilisation d'engrais chimiques, ce qui ferait baisser les rendements agricoles et donc ferait baisser d'autant plus l'offre agricole. Alors, pour compenser ça, les agriculteurs pourraient essayer d'utiliser plus d'engrais organiques, de matières organiques, mais ça, évidemment, ce sera possible pour ceux qui ont accès à des sources de matières organiques relativement proches, soit par exemple sur leur ferme, s'ils ont des systèmes de production agricole diversifiés, avec de l'élevage, par exemple, ils peuvent utiliser le lisier et les résidus organiques, ou s'ils ont d'autres différents types de cultures qui permettent d'utiliser les résidus de culture végétale pour, en quelque sorte, fertiliser leurs champs. Pour ceux qui n'ont pas de source, disons, d'engrais organiques, de matières organiques proches, effectivement, ça va être un problème très fort, cette hausse des engrais chimiques. Donc, tous ces facteurs pourraient entraîner une forte aggravation de l'insécurité alimentaire au plan mondial et évidemment plus dans les pays en développement où les gouvernements, malheureusement, n'ont pas souvent les ressources financières pour mettre en place des systèmes de soutien, par exemple des soutiens au prix pour éviter que les prix des aliments de base augmentent trop, ce qui les rendrait inabordables pour les plus pauvres. Et aussi, ils n'ont pas beaucoup de ressources pour mettre en place des systèmes de sécurité sociale, des systèmes de protection sociale, pour essayer de limiter les effets de cette crise. Mais il va y avoir aussi un autre effet de cette crise, de ces hausses des cours des denrées alimentaires et des intrants et de l'énergie. C'est donc pas seulement sur la consommation, sur les consommateurs et en particulier les plus pauvres des consommateurs, mais aussi sur les producteurs agricoles. On vient de le voir, la hausse des engrais est un problème pour les petits agriculteurs, mais la hausse aussi des prix de l'énergie est un problème puisque l'agriculture utilise beaucoup d'énergie, par exemple pour la traction mécanique. Mais aussi pour d'autres, il y a d'autres aspects où l'énergie est très importante. Et aussi, beaucoup d'intrants agricoles autres que les engrais, par exemple les pesticides, utilisent aussi de l'énergie. Ils sont assez gourmands en énergie pour leur fabrication. Donc, on voit que la crise, en fait, frappe de deux façons. Elle frappe la production et elle frappe la consommation.
On voit aussi que le trafic maritime est affecté, puisque souvent le trafic maritime depuis le port de la mer Noire est à l'arrêt pour le moment. Pourtant, ceci est important justement pour le commerce des céréales. Donc, qu'est-ce que cela provoque et voyez-vous justement des solutions?
Alors effectivement, ça provoque une difficulté d'approvisionnement pour plusieurs pays et aussi une hausse des cours des céréales et des huiles végétales, comme on l'a vu. Et même si les infrastructures des transports terrestres demeuraient intactes, l'expédition de céréales par le train serait impossible sans un réseau ferroviaire qui fonctionne bien. Alors les navires peuvent encore emprunter les détroits des Dardanelles et du Bosphore, mais évidemment, il y a une certaine contrainte à ce niveau-là. Et l'augmentation des primes d'assurance pour la région de la mer Noire alourdit les coûts déjà élevés du transport maritime, puisqu'on a vu les carburants augmenter, donc le fuel pour les navires aussi augmente beaucoup. Donc on a encore de nouveau une série de conséquences avec des problèmes d'approvisionnement qui risquent de se répercuter sur celui des denrées alimentaires importées, notamment dans les pays les plus pauvres, qui, comme on le disait, ne peuvent pas toujours subventionner fortement les produits alimentaires pour pouvoir compenser la hausse de ces cours au niveau international.
Y a-t-il des solutions ou des alternatives justement pour remplacer les productions russes ou ukrainiennes? Et peut-on justement combler le déficit de production et si oui, comment?
Alors, c'est une question très difficile et complexe,
Oui.
évidemment, parce que effectivement, le conflit actuel pourrait entraîner une réduction soudaine et vraiment d'ampleur dramatique des exportations de blé de la Russie et de l'Ukraine, alors que le blé est quand même un aliment de base pour plus du tiers de la population mondiale, 35% de la population mondiale. On ne sait toujours pas si d'autres exportateurs seraient en mesure de combler ce manque, parce que, comme on l'a dit un petit peu avant, d'autres pays exportateurs dans d'autres régions, par exemple les Amériques, ont aussi été confrontés à des problèmes, par exemple, liés au climat. Au temps. Donc, les stocks de blé, par exemple, sont déjà à un niveau bas au Canada et les exportations des États-Unis, de l'Argentine et d'autres grands pays exportateurs seront probablement limitées car les gouvernements de ces pays vont essayer de s'efforcer de garantir l'approvisionnement de leur marché intérieur. Donc, les pays dont la consommation de blé repose sur les importations vont être susceptibles d'intensifier les importations, ce qui va ajouter une pression supplémentaire sur les approvisionnements mondiaux. Parce que face à une offre qui est réduite, la demande risque d'augmenter encore. Donc, de nouveau, on va avoir des tensions sur les prix. On va continuer à avoir des tensions sur les prix. On attend aussi une contraction du commerce du maïs à cause du niveau élevé des prix et le fait que le recul des exportations ukrainiennes ne va peut-être pas pouvoir être compensé par des exportations d'autres pays pour les raisons qu'on a vues. Donc les pays qui dépendent beaucoup des importations de céréales provenant de la Russie et de l'Ukraine doivent se mettre à la recherche de fournisseurs d'autres pays pour essayer d'amortir le choc sur les prix. Mais ils doivent aussi également puiser dans leur stock de produits alimentaires, quand ils ont des stocks, et essayer de diversifier leur production nationale pour essayer d'assurer à leur population l'accès à une alimentation équilibrée et suffisante. D'un autre côté, les pays qui ont un potentiel agricole inexploité doivent investir pour essayer de développer leur production. Mais évidemment, ça va prendre du temps parce qu'on sait qu'entre le moment où un pays décide d'investir dans une certaine production, et le moment où cette production est récoltée, évidemment, plusieurs mois s'écoulent, dans certains cas même de nombreux mois. Et donc, dans le court terme, dans le très court terme, probablement les prix vont rester élevés pour justement à cause du fait du délai, en quelque sorte, entre le moment où on décide d'investir plus, où on décide de diversifier une production, et le moment où on obtient donc le produit de cette diversification.
Dernière question, Monsieur Pascal Liu. Donc, que fait et comment se prépare à faire la FAO pour justement aider les pays les plus touchés?
Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, qui est probablement le pays le plus touché actuellement, directement, à très très court terme, la FAO intensifie son action pour aider les familles rurales et protéger la sécurité alimentaire. Donc, dans un premier temps, elle mène en priorité des interventions qui visent à protéger les moyens d'existence des petits exploitants agricoles les plus vulnérables. Elle a proposé, par exemple, un plan de réponse rapide pour répondre aux besoins urgents du secteur agricole et aider les petits agriculteurs qui choisissent de rester, y compris les personnes déplacées et les familles d'accueil. Donc les aider à planter leurs champs, sauver leur bétail et produire de la nourriture. Et ceci s'inscrit dans le cadre de l'appel d'urgence lancé par l'ONU pour l'Ukraine. En ce qui concerne le commerce mondial des denrées alimentaires et de la sécurité alimentaire, donc au niveau plus international, la FAO recommande les mesures suivantes. Alors, une mesure très importante, c'est maintenir le commerce mondial des aliments et des engrais ouverts, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les activités de production et de commercialisation agricole qui sont destinées à satisfaire les demandes nationales et mondiales puissent continuer dans de bonnes conditions. Donc, les chaînes d'approvisionnement, les filières doivent rester actives, ce qui veut dire préserver les cultures sur pied, préserver les animaux d'élevage, les infrastructures de transformation des aliments et tous les dispositifs logistiques. Mais il faut aussi aider les catégories de population vulnérables, notamment les personnes déplacées à l'intérieur des frontières nationales ou qui choisissent d'émigrer. Donc les gouvernements doivent élargir les filets de sécurité sociale qu'ils ont mis en place afin d'assurer une protection aux personnes vulnérables. En Ukraine, les organisations internationales doivent intervenir pour que l'aide parvienne aux personnes qui en ont besoin et au grand nombre de personnes supplémentaires qui, dans le monde entier, risque d'être précipité dans la pauvreté et la faim à cause du conflit. Il est important de proposer des programmes de protection sociale qui soient bien ciblés pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Aussi, la FAO suggère aux pays, aux gouvernements, d'éviter de réagir par des changements de politique commerciale agricole au cas par cas. Donc, les gouvernements doivent tenir compte des effets éventuels sur les marchés internationaux, des mesures qu'ils pourraient adopter pour sécuriser l'offre alimentaire nationale. Parce qu'évidemment, les mesures au niveau national ont souvent aussi un effet au niveau international. Donc, par exemple, la réduction des droits de douane à l'importation pour les céréales ou le recours à des restrictions à l'exportation pour les pays exportateurs de céréales, ça pourrait aider à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire du pays en question à court terme. Mais le problème, c'est que ces mesures aussi entraîneraient une hausse des prix sur les marchés mondiaux. Donc, c'est important aussi d'essayer de réaliser un équilibre entre les nécessités du marché national et les nécessités du marché mondial. Le risque, c'est que si on a une série de réactions nationales précipitées, anarchiques et inappropriées au niveau des politiques agricoles commerciales, on pourrait en fait accentuer les effets de cette crise, ce qui est évidemment la dernière chose que nous voulons avoir. Et enfin, très très important, et la FAO s'implique beaucoup sur ce point-là, renforcer la transparence du marché international agricole, et renforcer le dialogue entre les principaux pays exportateurs et importateurs. Donc, on œuvre à davantage de transparence et d'information sur l'état du marché mondial, ce qui peut aider les gouvernements et les investisseurs à prendre des décisions informées, des décisions éclairées, lorsque les marchés des produits agricoles sont instables, comme en ce moment. Donc, par exemple, la FAO soutient le système d'information sur les marchés agricoles, AMIS. La FAO donc, soutient le secrétariat, opère le secrétariat de AMIS. Et donc, des initiatives comme AMIS favorisent cette transparence en produisant des analyses objectives des marchés dans aussi des temps très courts, donc des analyses qui sont presque en temps réel, pour permettre justement aux pays, et notamment les grands exportateurs, les grands importateurs, les pays qui ont une influence importante sur les marchés internationaux et les cours internationaux des produits alimentaires, de prendre des décisions qui soient justes, à la fois pour eux et pour le marché international, donc pour la communauté internationale.
Monsieur Pascal Liu, vous auriez autre chose à ajouter ou un dernier message pour nous?
Écoutez, ce que je voudrais vraiment souligner, c'est l'importance d'une coopération internationale dans l'esprit des Nations Unies. Et je pense que par une coopération internationale étroite et constructive, on va pouvoir essayer de limiter les effets les plus forts de cette crise des cours alimentaires et des cours des intrants et des matières premières qui sont nécessaires à l'agriculture. Les risques d'une forte aggravation de la sécurité alimentaire au niveau mondial et sont très forts. Et donc, il est extrêmement important que l'ensemble des membres des Nations Unies travaillent ensemble de manière étroite et constructive pour limiter les pires effets, en particulier sur les pays les plus pauvres, les pays en développement qui sont en déficit alimentaire, qui sont des importateurs nets de produits alimentaires, et sur les populations les plus vulnérables dans tous les pays.
Monsieur Pascal Liu, merci beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.